qu'elle a commencé dimanche la semaine. Hein. Eh oui, on est au troisième jour de la semaine. Amen. Et on est ensemble pour élever nos voix, mais également nous rapprocher du Seigneur. Et puis, eh bien, entendre son conseil aussi. Hein. Amen. Dimanche après-midi, vous vous souvenez de quoi j'ai parlé ? L'après-midi. La foi. Viens, Guy, il a écouté. On va reparler de la foi. Le thème et le titre du message, c'est « Ayez foi en Dieu ». Voilà, Marc chapitre 11, premier verset. Marc 11, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent l'ânon à Jésus sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré comme il était tard, il s'en alla à Béthanie avec les douze. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de belles feuilles ou des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors, prenant la parole, il dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne te point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Le chapitre 11 de l'évangile de Marc met en évidence cette autorité, l'autorité de Jésus. On va le voir, c'est à l'occasion de trois circonstances qui nous donnent, je dirais, trois raisons pour nous. Il y en a bien sûr plus d'autres, mais il y a déjà trois raisons d'avoir foi en lui. C'est d'abord l'envoi de deux disciples. Il les envoie au village voisin pour aller chercher un ânon dont Jésus a dit qu'il en avait besoin pour entrer à Jérusalem. Alors, il se passe quelque chose d'étonnant. Lorsqu'on demande aux disciples de détacher, qu'ils détachent l'ânon, pourquoi faites-vous cela ? Et qu'ils répondent comme Jésus leur a dit, tout simplement, le Seigneur en a besoin. Eh bien, cela suffit pour qu'aussitôt, on les laisse aller avec l'ânon. Alors, il est clair que l'autorité personnelle de Jésus, même par personne interposée, parce que c'était les envoyés de Jésus, donc ils étaient revêtus d'une mission, eh bien ça a une influence déterminante. Et que finalement, les gens qui auraient pu s'opposer à cet acte, eh bien, ont été comme subjugués et ils n'ont pas résisté. Le Seigneur en a besoin. Et cela a suffi. La demande du Seigneur était là et cela a suffi. Alors, cette autorité personnelle de Jésus, elle n'est d'ailleurs pas usurpée. On pourrait citer tous les miracles qu'il a opérés lorsqu'il a effectué son pèlerinage sur terre. Mais Dieu va la mettre en évidence déjà en le ressuscitant des morts. Amen. Jésus, à l'aube du troisième jour, est sorti vivant du tombeau. Amen. L'apôtre Pierre, elle l'a déclaré solennellement le jour de la Pentecôte, acte 2, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Et bien sûr, les gens de ce village proche de Jérusalem ont donc répondu sans hésiter à l'existence de Jésus. N'est-il pas celui qui incline même nos ennemis devant nous ? Hein ? Il est celui qui nous ouvre des portes que les hommes veulent nous fermer. Il est celui qui nous conduit dans le chemin. Et les exigences de Jésus, bien sûr, elles sont là. Et nous aussi, nous avons besoin eh bien, de dire, Seigneur, me voici. Amen. Pour faire ta volonté. Alors, il avait besoin de cet anneau pour entrer triomphalement à Jérusalem. Je ne vais pas passer un petit peu le cortège du vainqueur qui est entré dans la ville, etc. Mais donc, c'était simplement pour être honoré. Et puis, ce qui était important, c'est que son règne soit annoncé, enfin, à tous. Hein. Alors, verset 10, il est dit que les hommes qui étaient là, qui l'accompagnaient, qui étaient devant ou derrière, disaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient. » Et c'est vrai que Jésus a besoin de notre foi. Nous sommes aujourd'hui, quelque part, ses porte-parole ici-bas. Nous sommes ses témoins. Amen. C'est notre appel, notre vocation. Alors, c'est pourquoi il dit au verset 22, « Ayez foi en Dieu. » Et Jésus n'est-il pas Dieu ? Bien sûr qu'il est Dieu. Alors, la foi des hommes n'est rien en elle-même. Elle ne peut rien par elle-même. Elle est petite et faible, un petit peu comme cet anneau. Ce n'était pas un pur sang. Hein. Non, c'était un petit anneau. Mais lorsqu'elle est donnée à Jésus, eh bien, elle prend toute sa valeur, elle montre, je dirais, sa nécessité, un petit peu comme cet anneau qui va servir de monture à Jésus. La foi de l'homme, elle sert de support à Jésus. Amen. Il veut se servir de notre engagement, de nos décisions et de notre foi pour se faire connaître encore aujourd'hui eh bien, à ceux qui nous entourent, aux hommes et aux femmes parmi lesquels nous sommes. Amen. L'apôtre Paul, écrivant aux Romains, disait ceci, Romains chapitre 10, verset 14, « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, qui parle, qui témoigne ?» Amen. Nous sommes sauvés pour servir les projets du Seigneur. Alors, quand des hommes et des femmes se laissent convaincre par Jésus et subjugués, je dirais, par sa personne, alors leur foi agissante, elle fait connaître au monde celui, justement, eh bien, à qui ils obéissent. Amen. C'est pas le tout de dire « je suis chrétien, j'aime Jésus », mais il faut le prouver. Amen. Et c'est dans les circonstances, quelquefois, où nous aimerions rester silencieux, eh bien, qu'il nous demande de parler. Ça ne vous est pas arrivé ? Ah non, pas là, pas là. Il y a lui qui me connaît, il y a elle. Oh là là ! Seigneur, après j'ai passé pour quoi ? Eh bien, pour un enfant de Dieu. Pour un témoin de Jésus-Christ. Amen. Mais oui, moi, quand je me suis converti, on avait un coffee bar à Carpentras et on allait témoigner dans la rue, dans les villes. Et puis, on les ramenait porte d'Orange, à droite. Là, il y avait le coffee bar qui était là. Et puis, on les amenait, donc, ceux qui voulaient venir avec nous. Et puis, il y avait un moment de chant, un moment de témoignage, un moment devant la parole de Dieu. On leur servait un petit café. Pas d'alcool, mais un petit café, oui. Un petit peu, un petit sirop, un petit jus de fruits. Et puis, donc, ils recevaient le témoignage de Jésus. Et là, j'ai rencontré tous mes collègues de travail. J'ai rencontré toute ma famille, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes. Tout le monde, j'ai tous rencontré. Mais en plus, je ne me cachais pas parce que j'étais tellement heureux et fier. Amen. Parce qu'un chrétien, il est fier de son Seigneur. Hein. J'avance un petit peu parce que tu me regardes comme ça. Voilà. Mais quel bonheur que quand on vous dit, par exemple, à la caserne, on me disait « Oh Jésus !» Au lieu de me blesser, de m'affliger, et moi, ça me réjouissait. Et ça les mettait un peu en rogne. Parce que c'était moqueur. Vous voyez, c'était méprisant. Mais moi, ça me faisait du bien. Je dis, tu sais que tu me fais du bien. Un jour, il y avait un chant à l'époque, en boîte de nuit, se chantait Alléluia. Je n'ai jamais entendu ce chant. Hein. Et puis, lui, je l'entendais fredonner Alléluia, Alléluia. Tu sais ce que tu dis? Il me dit, bah, Alléluia. Mais tu sais ce que tu dis en ce moment-là? Tu es en train de glorifier le nom du Seigneur. Ah bon? Oh, puis c'est arrêté après. Hein. Dommage. Hein. Mais vous voyez un petit peu comme quoi les hommes font des choses sans connaître. La réalité, sans savoir. Et puis également, quand ils veulent nous blesser, mais quel bonheur que d'appartenir à Jésus. Et puis d'être identifié à lui. Oh, j'étais loin de lui ressembler, hein, je venais de me convertir. Mais c'était un bonheur. Hein. Alors la deuxième circonstance qui nous donne une autre raison d'avoir foi en Dieu est celle du dessèchement du figuier stérile. Vous voyez, ce figuier aurait dû porter des fruits, parce qu'il avait des belles feuilles. Hein. Il n'avait que des belles feuilles, dommage. Alors, pendant la parole, Jésus dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'ont entendu. Vous voyez, Jésus n'a pas fait les choses cachées. Hein. Il a fait pour qu'on l'entende. Hein. Chaque fois, il y avait une leçon. Il y avait un enseignement. Il y avait quelque chose qui leur était profitable, qui devait leur être profitable. Alors, le lendemain, ils virent que le figuier était sec jusqu'aux racines. Vous auriez dit quoi, vous? Alléluia! Non. Oh! T'as vu le figuier? Il est mort, il est sec. C'est-à-dire qu'ils étaient étonnés. Au lieu, quelque part, de s'émerveiller de l'autorité, de la puissance de Jésus, de le glorifier, tout c'était dans l'étonnement. Oh, ils regardaient le figuier en passant. Ah, et Pierre est allé. Seigneur, t'as vu le figuier? Vous voyez? Mais c'est, quelque part, il y avait une leçon à recevoir. Il fallait qu'ils l'entendent. Alors Jésus leur dit, ayez foi en Dieu! C'est-à-dire chasser l'incrédulité naturelle de vos cœurs, croyez que ce que Dieu dit, il le fait. Et Jésus ajoute, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors cette foi en Dieu, et je dirais plus précisément dans sa parole, doit donc être employée dans un but précis, l'accomplissement des œuvres ordonnées par le Seigneur. Amen. Et je crois qu'il a misé sur chacun de nous pour accomplir son œuvre. Je ne sais pas si vous réalisez le privilège qui est le vôtre. Vous avez été choisi, élu. Vous faites partie des élus de Dieu. C'est-à-dire que vous avez été choisi. Et c'est lui qui vous a choisi, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Seigneur. Donc il ne s'est pas trompé, il sait qu'il a choisi. Il a misé sur nous, il a investi en nous. Et il attend un retour. Retour sur investissement, dirait-on. Bon, je ne sais pas si on peut parler comme ça. Hein. Mais en tout cas, il attend un retour qu'on puisse être digne du nom que nous portons. Amen. Digne de Jésus. Alors, quand je dis que les œuvres à accomplir qu'il a ordonnées le sont là, deux d'entre elles sont citées dans ce passage. Et il y a là un figuier stérile. Et puis, il y a également une montagne qui va être enlevée ou déplacée. Vous voyez, c'est ce que dit Jésus. Alors cette dernière image, elle se retrouve dans Ésaïe 40 déjà, versets 3 à 5. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine, les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair le verra. Le Nouveau Testament déclare que le proclamateur de ce message, ça a été Jean-Baptiste, hein, qui avait pour rôle, lui, de préparer au Seigneur un peuple bien disposé, comme le dit Luc, chapitre 1, verset 17. Alors voilà donc cette œuvre que Dieu veut accomplir. Ôter la montagne. Mais quelle montagne? Eh bien, ôter la montagne de péché qui sépare l'homme de Dieu. Amen. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu en étant pécheur. Donc il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est cette rencontre avec le Seigneur qui fait que cette montagne, elle est ôtée, que le péché, eh bien, il disparaît de nos vies, que nous passons par la nouvelle naissance, que nous trouvons tout simplement des chemins tracés pour nos vies, que nous entrons dans la présence, dans la communion avec lui. Et voilà où la foi de Dieu est nécessaire. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Il faut de la foi pour les témoigner à quelqu'un. Non ? Eh oui. Et quand c'est une personnalité... Des fois, je me suis retrouvé dans des situations. Un jour, j'étais face à face avec Charles Pasqua. Et puis, j'étais au garde à vous. C'était mon ministre de tutelle. J'ai dit, est-ce que je romps les reins, je rentre dans la cabine du camion, je récupère ma Bible et je lui offre en passant. C'était délicat, hein, vous voyez. Mais il m'est arrivé de pouvoir témoigner dans l'ambulance, de pouvoir parler à une jeune fille qui était en détresse, qui voulait retrouver sa maman. Elle voulait retrouver sa maman. Elle était adote, une grande adote. Et ben oui, mais ta maman, mais où est-ce qu'elle est alors ta maman, si tu veux ta maman? Elle me dit, elle est morte. Waouh! J'ai dit, bon, là, il y a un besoin. Il y a un besoin, je ne dois pas me taire. Et j'avais le temps, c'était Mormoron-Carpentras, il y a une bonne quinzaine de kilomètres. Et comme on était en campagne, c'était un ranch, un élevage de chevaux dans lequel elle travaillait, où elle avait été placée. Et bien, on avait le temps, on a pu avoir le temps pour discuter jusqu'à l'hôpital de Carpentras. Et puis, je lui ai dit simplement ceci. Je vais finir mon travail, là. Je finis à 8 heures. Je te dépose donc aux soins intensifs, Henria, puisqu'on les mettait là. Et j'ai dit après, est-ce que tu permets que je revienne te voir? J'aurai fini mon travail, moi, je viendrai te voir parce que j'ai besoin de te donner quelque chose et de parler avec toi. Elle m'a dit, oui, je veux bien. Donc, je suis parti, j'arrive à la caserne. C'était le moment où ma garde était finie. Donc, je suis reparti vers l'hôpital. J'avais une Bible que je lui ai offerte. Et je lui ai dit, maintenant, tu sais, que je vais prier pour toi. Et puis, voilà. C'est le témoignage qu'on peut laisser. Mais il faut de la foi pour le faire. Amen. J'avais également, puisque l'hôpital savait qui j'étais, hein, j'avais la secrétaire de l'hôpital. Vous savez ce qu'elle faisait ? Elle le passait dans tous les services, elle récupérait toutes les enveloppes, tout ce qu'elle pouvait récupérer. Et surtout, s'il y avait des beaux timbres. C'était pour la MT. Mais elle savait qui j'étais, elle avait entendu mon témoignage. Et au fur et à mesure, vous savez, ça se sait. Bon, il faut être à la hauteur. C'est-à-dire qu'il faut être digne du Seigneur, il faut faire sa volonté, il ne faut pas faire un pas de travers. Ah, oui, mais en tout cas, ça marche. Le témoignage y passe. Amen. Les hommes et les femmes ont pu entendre ainsi parler du Seigneur. Là, ces thèmes, ils ont servi tout simplement pour ensuite envoyer du riz, des denrées, des médicaments dans des pays en Afrique et autres, en Asie aussi. Hein. Voilà. Alors, voyez un petit peu. Quant au figuier qui ne portait pas de feuilles et pas de fruits, par conséquent, qui ne répondait pas à la vocation qui était la sienne, il a été séché d'un jour à l'autre par l'autorité de la parole. Ce que Dieu veut, eh bien, c'est que le croyant, l'enfant de Dieu, il porte des fruits spirituels. Amen. Il veut par conséquence, eh bien, dessécher, faire disparaître d'abord notre vie, dans notre vie, tout formalisme, hein, toute apparence de piété. Non, non, il faut être vrai. Tout pharisaïsme aussi. Hein. Non, non, on n'est pas des pharisiens. On est des croyants nés de nouveau. Et on veut avancer dans l'œuvre de Dieu, on veut la faire avancer. Alors à nous de le désirer, parce que ça part d'un sentiment, hein. J'ai envie ou j'ai pas envie. J'ai envie. Et j'espère que vous avez envie tous. Hein. Amen. Alors nous croyons fermement que ce que Dieu dit, il peut aussi l'accomplir. Ça, c'est dans le domaine de la foi. Moi, je crois. Je crois que Dieu est capable de l'impossible. Amen. Pour la vie nouvelle donnée d'en haut, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut une plante nouvelle qui va pouvoir porter des fruits à la gloire de Dieu. C'est pourquoi on passe par la nouvelle naissance. Amen. On est épuré, on est lavé, on est purifié. Amen. Quelle toilette! Alléluia! La troisième circonstance qui nous donne encore une raison d'avoir foi, eh bien, se trouve au verset 15 et au verset 17. Du verset 15 au verset 17. Nous trouvons Jésus dans le temple de Jérusalem. Là, il va manifester son zèle et son respect de la volonté de Dieu. Pour Jésus, il n'y a jamais eu une onde de remise en question de la volonté de son Père. la volonté divine. Il le dit lui-même, elle est exprimée par les Écritures. Il lui dit que lui-même, au verset 17, il enseignait, il disait, n'est-il pas écrit ? Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Pour Jésus, il n'y a jamais eu, je dirais, un instant d'hésitation pour faire, pour accomplir la volonté de Dieu. Lorsque Jésus annonça qu'il allait être crucifié, il dit à ceux qui l'écoutaient, dans Jean chapitre 12, verset 27, « C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Je ne suis pas venu pour vous cajoler, vous faire du bien, pour vous caresser dans le sens du poil. Non, non, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et si jusqu'à cette heure je suis là, c'est parce que c'était le temps de Dieu. Puis, il va dire à Pierre qui cherchait à le défendre au moment où il va être livré, Jésus lui dit, dans Matthieu chapitre 26, verset 54, « Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Il va même lui dire, arrière de moi Satan, à un moment donné, parce que Pierre voulait s'opposer à ce qu'il aille à Jérusalem. Mais ils vont t'arrêter, ils vont te prendre, te faire prisonnier, ils vont t'exterminer, te faire disparaître. Eh oui, mais comment s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ? Celui qui était le mieux placé pour connaître les Écritures, c'est Jésus. Amen. Et je crois que nous avons besoin de prendre le temps de l'écouter, de regarder ce qu'il nous dit, hein. Il nous exhorte, nous aussi, hein, tout simplement à faire la volonté de Dieu par ces mots encore. Ayez foi en Dieu. Pour accomplir la volonté de Dieu, eh bien, il faut avoir foi en lui. Et je crois que c'est bien là le secret pour faire sa volonté, c'est d'être animé par la confiance et l'attachement de cœur à Dieu. Quand le cœur est donné, Jésus y a un souffle de son esprit, hein, l'esprit de fils qu'il est, dévoué à son Père. Et c'est ce qu'il faisait dire à Paul, dans Galates chapitre 4, verset 6, « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba ». Père. Amen. Père. » Dans le passage qui nous occupe, Jésus fait respecter la volonté de Dieu dans le temple de Jérusalem pour qu'il soit comme il devait être, une maison de prière. Une maison de prière. C'était ça la maison de Dieu, le temple. Et si je croyais que c'est dans tout l'être régénéré, je parle pour nous cette fois-ci, devenu le temple du Saint-Esprit, eh bien que la volonté de Dieu, là aussi, elle doit être faite. Elle doit s'accomplir. Amen. Dans le temple de Jérusalem, les hommes servaient leurs propres intérêts au lieu de servir les intérêts de Dieu. C'est pourquoi Jésus va les chasser sans ménagement. Il a fait un fouet, ou il avait une baguette, certains disent. Mais en tout cas, il s'en est servi pour les faire fuir et les faire partir. Il a renversé les tables. Il a dit, ne prenez rien, tout reste ici. Pas s'ils étaient capables, ensuite, peut-être même de vendre deux fois, on ne sait pas. Hein. T'es vendu, le gars ne l'a pas récupéré, je le récupère, je le revends. Eh oui. Bon, en tout cas, cette vie chrétienne, sanctuaire de Dieu, doit être une maison de prière. Amen. Nous devons être, chacun pour notre part, une maison de prière. La prière est certainement l'expression la plus parfaite de l'harmonie complète avec Dieu. Et cette harmonie, elle a pour conséquence et pour résultat l'harmonie avec les autres. Amen. Nous venons d'éducations différentes, de mentalités, de natures différentes. Notre caractère est différent. Et néanmoins, nous sommes ensemble. Amen. Nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ ici-bas. Un jour, nous nous retrouverons tous ensemble, de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Alléluia. Il paraît qu'on chantera un cantique au nouveau. En quelle langue, au fait ? Les Italiens disent en italien. Les Anglais en anglais. Et puis espagnol. Abra, espagnol. On parle espagnol ici. On chante espagnol. Et puis nous, les Français, on dit non, on va chanter en français. Bon, on ne sait pas. Un cantique nouveau, une langue nouvelle que le Seigneur est capable de nous donner, nous faire apprendre en un instant. Amen. Et oui, en un instant, il est capable de faire des choses formidables. Amen. Jésus rajoute quelque chose de particulier pour que cette harmonie avec son Père, eh bien, le soit parfaite. Il dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Et là, il faut avoir la foi en Dieu, là aussi. Hein. Ayez foi en Dieu. Et que cette demande pressante de Jésus nous pousse à faire pleinement sa volonté. C'est-à-dire rejeter, je dirais, toute incrédulité qui pourrait nous saisir et nous opposer, nous amener à nous opposer à la volonté de Dieu. À la puissance de Jésus qui veut nous communiquer. Nous pourrions le faire attendre. Ce serait dommage. Amen. Parce que Jésus a besoin de notre foi pour se faire connaître au monde. Amen. Il a besoin de nous pour que d'autres puissent entendre le conseil de Dieu. Moi, je bénis ceux qui ont prié pour moi, ceux qui m'ont parlé. Je bénis le Seigneur de ceux qui n'aient pas eu peur de me témoigner, de me dire la vérité. Hein. Ah oui, je me souviens de cette sœur. Hein. Ouais, mais toi, tu n'as pas besoin de Jésus, toi. Tu es au-dessus. Alors, je dis sœur maintenant. Hein. Avant, ce n'était pas ma sœur. Hein. Et puis, quand je me suis converti, quand j'étais encore pompier, au petit matin, je finissais ma garde. On est appelé pour un accident de circulation. J'arrive. Ah, oh, c'est toi. Elle me dit, Bernard. Elle a vu que ça comme consciente. Bernard, appelle mon mari. Et hop, elle est partie dans le coma. Elle savait qu'il y avait un chrétien qui était là. Le Seigneur avait envoyé un de ses fidèles. Je vais dire, oh, allez, pourquoi pas, hein. Saint-Bernard, hein, c'est bon. Hein. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'elle me dit, quand elle s'est réveillée après qu'elle m'a parlé, qu'on a parlé de l'accident, comment ça s'était passé, choc frontal entre deux voitures, hein, elle partait au travail. Elle me dit, quand je t'ai vue, elle me dit, c'est descendu sur moi une paix. Oh, le Seigneur est là, elle me dit. Eh oui, c'est important. Vous voyez, c'est des petits trucs, mais qui nous rassurent. On dit, le Seigneur est là. Pouf. Elle me dit, je me suis laissé partir. Je me suis senti partir et je sentais. Hein. Jacqueline, à Mazan, on l'appelait. Elle habitait mon village. Voilà. En tout cas, le Seigneur est formidable. À nous d'être forts. Forts et formidables. D'être fidèles. Amen. D'accomplir et de faire pleinement la volonté du Seigneur. Alléluia. On va prier. Est-ce que vous avez, vous, des sujets de prière? Moi, après, j'ai besoin de ma mémoire, elle est là.